Voilà donc rendez-vous avec l'émission mensuelle Un moment pour la Terre avec Léa Longo avec nous de France Nature Environnement qui va faire une intervention donc sur la philosophie et l'écologie. Bonjour Léa.
Bonjour. Alors c'est vrai que les émissions qu'on fait d'habitude sont souvent en lien avec l'actualité. Je vais proposer plutôt de prendre un petit peu de recul. Et c'est vrai qu'au fond, avec le peut-être troisième confinement, les plus chanceux d'entre nous auront le temps de lire et de penser. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais simplement aborder quelques questions philosophiques et quelques mouvements philosophiques qui se sont intéressés à l'écologie, à la nature, au développement durable. Et donc on va tout de suite commencer en se demandant d'abord pourquoi cette thématique. C'est vrai qu'on est dans une période de crise environnementale, d'urgence environnementale, climatique. Et on peut se dire que réfléchir à la philosophie de l'environnement, etc., c'est peut-être un luxe, un caprice de philosophe. Donc pourquoi prendre le temps de s'arrêter? Est-ce que c'est pertinent? C'est vrai que la philosophie s'est toujours occupée en quelques mots des raisons de l'action, ce qui nous pousse à agir. Donc la tradition philosophique française a longtemps ignoré les questions environnementales et écologiques. C'est assez récent, 20-30 dernières années, je dirais. Et du coup, on retrouve ces questions surtout dans la tradition philosophique américaine. Ça expliquera les philosophes que je pourrais convoquer tout au long de l'intervention. Et du coup, face à l'urgence environnementale, au niveau de l'action, il y a deux attitudes radicales. Il y en a une qui dirait c'est urgent d'agir, on n'a pas le temps de philosopher, en fait. Il faut vraiment faire quelque chose. Ou l'autre qui se développe de plus en plus, c'est l'impossibilité d'agir, l'éco-anxiété, ce qu'on appelle. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu? Est-ce qu'on peut pas réfléchir avant d'agir? Est-ce qu'on peut donner un sens à nos actions? C'est un peu à ces questions que je voudrais répondre. La philosophie, donc, comme je le disais, a beaucoup réfléchi sur l'action, les raisons d'agir. Et cette situation d'urgence aujourd'hui nous semble assez inédite. Est-ce que c'est vraiment le cas? Les questions philosophiques vont permettre de prendre un peu de recul et une bulle d'air. En philosophie, l'action, c'est toujours lié à un contexte, en fait, à une prise de décision. Il y a toujours des valeurs liées et un but. Et donc, il faut peut-être prendre le temps de définir les mots. Et les mots ont un poids, un sens et une histoire. Et donc, l'histoire de la pensée peut permettre d'éclairer notre action. Et ça me semble assez important pour comprendre comment on est arrivé à cette crise écologique aujourd'hui. Il faut prendre conscience de ce que les mots véhiculent et des implications. Donc si on prend tout simplement, par exemple, l'expression « développement durable », c'est vrai que Catherine Larère, du coup, dans un article de 2006, a fait une analyse. Et elle montre bien qu'il y a un paradoxe dans cette expression. « Développement », c'est un progrès illimité, ça renvoie à l'idéal des Lumières, c'est la foi dans la technique, c'est la foi en l'avenir. C'est vraiment l'utopie occidentale du progrès de nos sociétés. Et l'autre côté, durable, ça va appeler une limite, une responsabilité, la précaution. Donc on demande un développement, donc une croissance illimitée dans un monde fini, en respectant des responsabilités. Donc c'est quand même assez paradoxal. Donc on voit que rien qu'en deux petites secondes, avec ce mot, on peut voir qu'il y a déjà des paradoxes. On dit qu'on est impliqué dans le développement durable, mais au fond, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? La question du développement durable, elle va aussi demander de définir ce qu'est la nature. Donc comme je le disais, en France, on a mis longtemps à s'y intéresser. Et donc il faut réfléchir les rapports de l'humain avec la nature et s'interroger donc sur les racines de la crise environnementale. Déjà, il y a des faits, les ressources sont finies. Donc aujourd'hui, on arrive à la fin des ressources, etc. Donc la crise vient entre autres de là, forcément. Mais dans la pensée, comment ça se traduit? Comment ça s'est ancré? Et donc quelle est l'histoire des idées? Donc les rapports des humains et de la nature, une vaste question de définir la nature, c'est un concept qui est donc souvent opposé à la culture, à la technique, et on retrouve ça dès l'Antiquité en fait. Donc dès l'Antiquité, l'humain pense qu'il peut exploiter la nature, se l'approprier. Cependant, l'humain se sent inclus dans la nature, il en fait partie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment propre à l'Antiquité. On retrouve ça donc chez Aristote, Platon, Sophocle, et donc pour fonctionner en société individuellement, l'humain, s'il n'y a pas vraiment d'individu en Grèce antique, l'humain copie la nature. C'est Aristote explique simplement qu'un objet, enfin, pour fabriquer un objet, on va s'inspirer du fonctionnement de la nature. et on va la recopier, on va essayer de faire comme la nature, parce que la nature dans la philosophie antique est quelque chose qui est finalisé, donc qui a un but, qui a des valeurs, et c'est aussi un objet de science qu'il faut étudier, contempler, et qui cache plein de secrets. Donc il y a ce côté un peu mystique, même si elle est scientifique, stable et ordonnée, elle est indépendante. Et elle répond à ses propres buts. Donc l'homme, à la Grèce antique, ne domine pas la nature. Il se permet de l'exploiter et de se l'approprier. Donc on voit que c'est quand même un ancrage qui est très très vieux. Et à la modernité, en fait, à partir du 15e siècle, et entre le 15e et le 17e siècle, avec la révolution scientifique, on va sortir de ce concept de l'Antiquité. Et la nature va être quelque chose, du coup, de mécanique. Il n'y a plus de morale, elle est vidée des questions morales et de buts. Et en fait, l'humain va... Vu que l'humain, enfin entre autres, a des croyances, une culture, une morale, des buts, il va s'en extraire, il va la dominer et va naître du coup à ce moment-là une attitude de supériorité, de contrôle et toute cette idéologie du progrès et de maîtrise. Et donc du coup, le problème, il est double. On voit que d'un côté, on exploite les ressources, on se permet d'exploiter les ressources et de s'octroyer un droit sur des ressources naturelles. Et de l'autre côté, on est même sorti de... On se considère en dehors de la nature, on se considère supérieur. Et est-ce que c'est vraiment une attitude qu'il faut avoir? Au final, c'est une attitude qu'on a et qui est ancrée dans la pensée. Est-ce que justement, il faut pas questionner aujourd'hui cette attitude? Parce qu'il y a beaucoup de conséquences. D'une part, la protection de l'environnement, en fait, même si c'est une bonne chose, c'est toujours croire qu'on a la maîtrise de l'environnement et de la nature. Donc, est-ce qu'il faut pas être un peu plus humble? Et après, enfin, dans des questions pratiques, aujourd'hui, enfin, l'humain décide de hiérarchiser la protection des espèces, etc. Donc là, encore une fois, on voit cette attitude qui est du coup ancrée depuis des siècles, et ça peut soulever des questions. Dire que l'humain a la maîtrise des droits sur la nature et le contrôle, c'est quand même assez prétentieux. Et du coup, à ce niveau-là, on peut observer deux attitudes dans la pensée assez radicales. Donc d'une part, il y a la wilderness américaine qui consiste à fantasmer une nature vierge et sauvage, romantique. Et du coup, elle est complètement dépolitisée, c'est vraiment presque de l'art. Et ce rapport aux espaces naturels est une autre attitude qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis. Parce que la pensée américaine, c'est vraiment construite sur ces grands espaces, le rapport qu'ils avaient avec ces grands espaces. Et de l'autre côté, on a l'attitude vraiment scientifique de domination et de confiance aveugle en la science. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un exemple assez évident sous les yeux. On voit aujourd'hui avec la crise sanitaire, tout simplement, on voit des médecins qui se contredisent publiquement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on avait rarement vu avant, des scientifiques qui vont se contredire devant le public. Enfin, normalement, ils sont pas censés le faire. Donc on voit bien que la science aujourd'hui est assez impuissante. Donc je pense que il faut sortir. Enfin, il y a d'une part soit aller vers une attitude donc presque artistique en rapport à la nature, mais qui est complètement dépolitisée, soit cette attitude complètement scientifique, mais on voit aujourd'hui qu'elle est elle aussi en crise. Donc il faut voir s'il n'y a pas d'autres possibilités. On peut passer du coup à la première chanson, France Gall, Résiste.
Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Ça vaut la peine. Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce
On reprend donc un moment pour la Terre avec cette philosophie
sur la nature. Ouais. On disait que la nature en philosophie, c'était du coup, ça a été quelque chose qui a été considéré comme un objet de science. Puis à l'époque des Grecs, qui était un petit peu, enfin qui était même beaucoup moral. Puis ensuite avec la révolution scientifique, qui était vidée de toute morale et qui était juste quelque chose de scientifique. Et du coup, que la science a vraiment dominé notre appréhension de la nature, qu'il y avait d'autres options, du coup presque artistiques, contemplatives. Dans toutes ces options, la nature n'est pas plus un objet politique ou social. Est-ce qu'il faudrait pas qu'elle le soit? Enfin, c'est des idées qui ont été développées par des philosophes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, quand on veut agir dans la crise environnementale, c'est assez prétentieux de dire qu'on va sortir de la crise avec une maîtrise scientifique et technique, tout en sachant que c'est cette dite maîtrise scientifique et technique qui a pu nous amener là. Et puis aujourd'hui, avec les effets globaux, on n'a plus vraiment la maîtrise. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas anticiper. Il y a des effets qui se croisent, et donc c'est vrai que annoncer en sortir avec le progrès et la technique, c'est une position qui est défendue par certains, bien entendu. Mais il y a d'autres positions moins connues en philosophie, enfin moins connues en général. Et donc, ces considérations peuvent interroger nos attitudes et nos convictions, et on peut se demander quelles solutions dans la pensée existent. Donc, on a vu les origines de la crise, on constate aujourd'hui un contexte plus qu'incertain, et il y a plusieurs voies qui ont été pensées pour sortir, pour prendre du recul. Tout d'abord, il y a la collapsologie, donc il y a un mouvement quand même assez populaire aujourd'hui par rapport à l'effondrement. Mais en fait, le problème de la collapsologie, c'est qu'elle peut être vue comme quelque chose de très dépolitisé, parce que c'est un peu, pour caricaturer, c'est un peu dire qu'il faut se replier sur soi, en autarcie, etc. Pendant les humains font société, faire société, c'est politique. Donc partir vers la collapsologie, à mon sens, n'est pas une grande idée. Et sinon, il y a la solution de sortir grâce au progrès et à la technologie, qui encore aujourd'hui, la solution dominante. Aujourd'hui, on pense trouver les solutions à tout grâce au progrès et à la technologie. Et j'ai choisi de présenter aujourd'hui un courant philosophique américain qui s'appelle l'écologie sociale, qui est donc assez peu connu, même en philosophie, qui a été très récemment traduit en France. Donc c'est Murray Bookchin et Jeannette Biel qui ont donc théorisé aux États-Unis l'écologie politique radicale, donc ou aussi écologie sociale, à la fin des années 60. Donc ils font partie de la mouvance gauche radicale américaine, donc qui est d'inspiration anarchiste, marxiste et libertaire. C'est important de le dire parce que ça se retrouve beaucoup dans leurs écrits, ça biaise complètement leurs pensées, donc c'est important de le souligner. Donc ce que Bookchin proposait, c'était que, il est très précurseur, visionnaire et assez original, parce que c'est vraiment le premier, avec du coup sa compagne Jeannette Biel, à faire entrer la question écologique dans le champ politique et ne pas simplement la restreindre en fait à la protection de l'environnement, et donc à politiser vraiment la question de l'écologie et à faire de la justice environnementale quelque chose de à l'inclure dans son programme politique. Son analyse du monde, assez simplement, ça va être que tout est parti du fait que depuis l'ère néolithique, les sociétés humaines se sont constituées de manière hiérarchique. Il y avait la prise de pouvoir d'un certain groupe d'individus qui du coup prenaient le pouvoir sur un groupe, et en raison de la rareté des ressources. Et donc du coup, en fait, ça a créé de la domination de l'humain sur l'humain. Donc pour lui, tous les problèmes ont commencé là. De cette domination de l'humain sur l'humain a découlé donc la domination de l'humain sur la nature. Donc pour lui, les dégradations environnementales sont originaires de la domination sociale, en fait. Donc c'est une théorie qui est quand même assez originale, et il trouve que la société du coup capitaliste va vraiment renforcer ces dynamiques, parce qu'il y a plusieurs choses. D'une part, il y a l'intériorisation de ces rapports de domination, et donc du coup ça amène une démobilisation et une dépolitisation des citoyens, qui donc du coup ne font plus trop partie de la vie politique, ne s'en occupent plus trop, et donc se plie à ces logiques de domination, et qui du coup ont des conséquences aussi sur la domination de l'humain sur la nature. Et donc il analyse le capitalisme comme beaucoup de penseurs de la mouvance de gauche radicale, comme voué à l'autodestruction, C'est-à-dire que c'est un idéal de croissance perpétuelle dans un monde fini. Il dit, donc je vais le citer dans Une société à refaire, un livre de 1992, le capitalisme recèle des contradictions internes et externes. Une économie structurée autour de la maxime croître ou mourir doit nécessairement prendre le monde naturel comme adversaire et semer la ruine écologique. Il ne peut exister de capitalisme vert ou de compromis. Et donc, cette citation, qui est très intéressante, qu'on voit qui est très marquée par ses idées assez extrêmes, on peut la contester en disant, enfin, par honnêteté intellectuelle, si on est libéral, on peut dire que l'émergence du libéralisme a favorisé les libertés individuelles, renversé les ordres sociaux traditionnels, etc. Donc, il est quand même contestable, et on voit bien que ses idées sont vraiment présentes dans ses théories. Et du coup, qu'il est très très militant dans ses écrits. Mais la raison pour laquelle aussi j'ai décidé de parler de ce philosophe, c'est parce que il propose une solution concrète, ce qui est quand même assez rare en philosophie, de proposer
quelle est cette solution?
Alors, il va nous présenter, elle est concrète, mais pas trop. Et donc, il va développer la théorie de ce qui s'appelle le municipalisme libertaire. Donc, en fait, tout simplement, il va repartir de cette histoire de domination de l'homme sur l'homme et de l'humain sur la nature. Et il va dire qu'il faut complètement repenser son lien à la nature et donc ne plus la voir de manière darwiniste, donc avec la compétition, la sélection naturelle, et plutôt comme quelque chose de coopératif, plein d'entraide et de diversité. Et donc, il s'inspire de Kropotkin. Et il va dire que, du coup, la nature fonctionne grâce à ces liens de coopération et d'entraide. Et en fait, il va dire qu'il faut réinclure l'humain dans la nature. Et donc, sortir de tout ce qu'on a pu dire avant par rapport à la révolution scientifique. Et du coup, c'est vrai que après la question de la perception et de l'interprétation du monde qui nous entoure, ça occupe beaucoup les philosophes. Donc, il y a la vision darwiniste qui est quand même majoritairement dominante avec la sélection naturelle, mais c'est vrai que d'autres scientifiques ou d'autres philosophes et d'autres chercheurs ont pu interpréter la nature d'une autre façon, avec ces questions de coopération et d'adaptation et de diversité qui sont nécessaires avec toutes les interactions complexes dans la biodiversité. Et donc, en fait, il va dire que l'organisation sociale doit se calquer sur l'organisation biologique. Donc là, il va avoir une vision donc politique et morale de la nature. Il va dire simplement, hein, donc dans la nature, les éléments naturels coopèrent, sont diversifiés, donc il faut qu'on fasse pareil dans la société. Donc cette vision, elle est assez intéressante parce qu'on a vu que le concept de nature avait été complètement dépolitisé et il y avait plus du tout de questions sociales dedans, alors que l'humain reste un élément naturel et qui peut en faire partie selon les interprétations. Donc concrètement, son projet pour répondre à la question, c'est le municipalisme libertaire, donc qui a priori donc prend toutes ces valeurs en compte, d'abord la nature coopérative, etc. Et il va proposer que du coup on abolisse l'État-nation et le capitalisme et qu'on fonde des petites communes en démocratie directe avec un fonctionnement en assemblée, avec du coup des votes à la majorité, des débats et donc que ces petites communes après fonctionnent en confédération et donc du coup au niveau de l'organisation concrète. Il va quand même très très loin. Pour la justice sociale, il va proposer la municipalisation de la production, le partage des ressources selon les besoins rationnels. Et donc c'est quand même très très radical. Mais ça reste, ça peut rester, enfin ça reste concret quand même pour un philosophe. Et de l'autre côté, ce qui est aussi assez intéressant, donc il date des années 60 et au niveau des technologies, il va dire que les technologies ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais que c'est l'usage qu'on en fait. Donc du coup, il va pas du tout être sur un modèle de sortir totalement des techniques, etc. Il admet que la technique peut être libératrice, en fait. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de pas avoir une critique folle de la technique. Il dit qu'il y a quand même des côtés négatifs dans certains usages de la technique. Mais il l'exclut pas totalement, donc c'est pour ça que ça semble quand même assez concret et envisageable. C'est sa théorie, le municipalisme libertaire, et je pense qu'on peut passer à la deuxième pause musicale. Donc c'est Téléphone, Un autre monde.
Mmh.
Voilà, on revient donc avec Un moment pour la Terre, Léa Longo avec nous pour nous parler donc de philosophie de la nature, et on en était au municipalisme libertaire. Voilà.
Donc on disait que le philosophe que j'ai décidé de présenter, Murray Bookchin, proposait une reconsidération de notre relation à la nature, donc pour qu'on soit plus en coopération, pour que notre modèle social se calque sur le modèle de la nature, où la nature est plus coopérative, etc. Et concrètement, il proposait donc d'abolir le capitalisme et l'État-nation, ce qu'il est du coup d'inspiration, je l'aurais dit bien, marxiste, libertaire et anarchiste. Donc il est assez radical, et il proposait cette organisation en petites communes, en démocratie directe, en confédération. Et en fait, on a un exemple dans le monde réel de une tentative de mise en application du municipalisme libertaire, parce qu'on peut dire d'office qu'il a été beaucoup critiqué. Pour les uns, il est beaucoup trop utopiste. Et pour les autres, pour les anarchistes, il est trop institutionnel. Donc il est critiqué, mais ce qui est très intéressant, c'est que un État, donc dans le Kurdistan Nord, donc au Rojava, a voulu mettre en pratique ce modèle politique. Donc c'est sous l'impulsion du Parti des travailleurs kurdes, donc Ocalan, du PKK, et depuis 2012, ils ont tenté de mettre en application donc la théorie de Murray Bookchin. Ils ont donc institué une démocratie directe paritaire avec des conseils locaux, des assemblées. Ils prônent l'égalité des genres, le pluralisme religieux, l'écologie, les politiques sociales. Et ils essayent de tendre vers l'économie solidaire. En 2016, du coup, ils ont signé le contrat social, qui fonde constitutionnellement leur organisation. Par contre, ils ont quand même, ça c'était une proposition de Bookchin, ils ont quand même refusé de collectiviser les moyens de production de manière autoritaire. Donc, ils vont pas aussi loin que Bookchin, mais ça se comprend. Cette expérience est quand même assez intéressante à étudier. Vous pouvez trouver un article sur le site de Reporter qui la présente tout simplement, donc au Rojava. Mais Reporter note qu'il y a quand même certaines limites externes. D'une part, le Rojava est soumis à un embargo, donc ça peut poser quelques problèmes au niveau de la prospérité économique. Il est aussi situé donc dans des terres instables, voire en guerre. Donc c'est un deuxième problème externe. Mais au niveau des problèmes internes, c'est vrai que le fonctionnement en autogestion, en conseils locaux, peut tendre tend de plus en plus, de ce qui est dit dans cet article, à l'institutionnalisation, au risque de bureaucratie, et donc de retomber dans un modèle comme le nôtre. Donc je pense que ces questions et ces propositions de Murray Bookchin sont vraiment très intéressantes, parce qu'elles nous permettent de voir une autre perception du monde. Donc il y a quand même beaucoup de convictions politiques dans ses écrits, mais de l'autre côté, il essaye de proposer une solution assez concrète de municipalisme libertaire. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant pour un philosophe. En général, j'espère que ces réflexions philosophiques ont permis d'apporter donc du recul et de penser au sens que l'on met dans ses actions, avec ces questions toutes simples que l'on a pu soulever. Quelle relation les humains ont-ils entre eux? Quelle relation les humains ont-ils à la nature? La nature est-elle un objet scientifique, un objet moral, un objet politique, un objet social? Et que cette théorie finale, du coup, de Murray Bookchin, qui est certes un peu utopiste et radicale, permet quand même d'ouvrir certains horizons. Il est aussi intéressant de la connaître. Et je pense que, du coup, il nous reste un peu de temps pour aborder l'écologie en politique. Et donc, ici, j'aimerais parler d'un philosophe contemporain, donc qui s'appelle Pierre Charbonnier, et qui donc étudie les mouvances écologistes en politique. Et dans un article de 2018, donc qui est paru dans Esprit et qui s'appelle Les formes de l'affect écologiste, des attachements à la critique, il va étudier donc les facteurs qui empêchent que l'écologie politique devienne la force politique majeure de nos démocraties. Parce que c'est vrai qu'avec tous les faits, la crise environnementale, on peut se demander pourquoi aujourd'hui les mouvements écologistes ne sont pas à la tête du monde. C'est une question qui peut se poser. En effet, même si depuis, du coup, il y a eu, par exemple, en France, on peut voir que le parti écologiste fait des percées. Donc, c'est vrai que là, cet article date de 2018, mais bon, il reste quand même assez actuel. Donc, sa question, c'est tout simplement pourquoi l'écologie en politique, ça ne marche pas, en fait. Et donc, il va souligner plusieurs idées. D'abord, le mouvement écologiste, il date du milieu 20e en politique. Et en fait, c'est trop récent. Je reprends ces mots. Hein, c'est trop récent parce que la politisation et la définition de l'idéologie, c'est quelque chose qui se fait sur le temps long, de définir les concepts, les valeurs d'un mouvement. Et donc, du coup, pour lui, le mouvement qui a émergé tout juste mi-20e est beaucoup trop jeune en fait pour avoir une ligne politique claire. Parce que c'est la deuxième critique qu'il va formuler. Il va dire qu'il y a vraiment un brouillage idéologique dans les mouvances écologiques. Que la ligne a du mal à être claire, précise, trop peu entendue. Et du coup, il va aussi voir dans l'écosystème politique qu'il y a deux choses. D'une part, l'émergence des populistes et des conservateurs. Et d'autre part, le néolibéralisme dominant, qui va du coup en fait effectuer un nivellement par le bas. Le néolibéralisme va promouvoir une écologie des petits gestes. Et donc du coup, il va instrumentaliser en fait des objectifs écologique. Donc pour reformuler ces mots, il dit que le problème de l'effectivité de l'écologie politique semble cependant résider dans le fait qu'elle exige par définition un changement de paradigme politique et moral. L'écologie comme valeur morale interrompt le débat politique et se situe fondamentalement à côté du politique. Le problème de l'effectivité de l'écologie politique, ça veut dire que tout simplement l'écologie, dans ses valeurs et dans les choses qu'elle peut souhaiter mettre en place d'un point de vue politique, ça veut aussi dire du coup l'organisation sociale. Il y a la politique et aussi le politique, c'est ce qui touche du social, c'est les organisations des hommes. C'est pas que des convictions politiques au sens traditionnel, on entend les deux termes en philosophie. Et donc Pierre Charbonnier dit qu'il y a vraiment un changement à faire, aussi bien au niveau moral que politique, qui est tellement gros pour l'organisation des sociétés aujourd'hui que les partis qui peuvent défendre l'écologie n'arrivent pas à le promouvoir, en fait. Donc ça amène une remise en question beaucoup trop profonde. En fait, ça regroupe un peu ce que pouvait dire Murray Bookchin, qui disait que on a intériorisé toutes les valeurs, les modèles, etc., et que du coup, on n'arrive pas forcément à prendre le temps de remettre en question et de s'organiser autrement, tout simplement. Donc Pierre Charbonnier dit aussi que l'autre souci est que les penseurs n'arrivent pas à proposer des solutions concrètes. On a pu voir que Bookchin, encore une fois, le faisait un petit peu sans y parvenir totalement. Mais du coup, la dernière critique qu'il va faire, c'est aussi que ces penseurs sont beaucoup trop utopistes et parfois dans le mysticisme. Et du coup, ça rejoint le fait qu'ils n'arrivent pas à proposer de solutions trop concrètes. Je pense que sur l'aspect philosophie, on peut conclure désormais. On va parler après juste simplement des actualités de France Nature Environnement 04. Donc j'espère sincèrement que cette intervention vous a apporté des éléments de réflexion, qu'elle a pu permettre à certains de découvrir tous ces débats qui existent en philosophie, ce qu'il est quand même très important de faire sortir la philosophie des universités, à mon sens. C'est la raison pour laquelle j'étudie la philosophie. Il est très important de la démocratiser. Elle a vraiment des impacts concrets et pose des questions très importantes pour le monde pratique. Et c'est vrai que beaucoup de personnes convaincues par le développement durable s'interrogent sur les façons d'agir, se demandent si ça a du sens, si ça vaut le coup. Donc c'est vrai que lire tout ce que j'ai cité, donc Catherine Larère, Pierre Charbonnier, Murray Bookchin, ça peut être une occupation pour le troisième confinement.
Ça, c'est une bonne idée.
Et du coup, pour finir, France Nature Environnement 04, du coup, l'association où je suis en service civique, je vous annonce les actualités des mois à venir. Le lundi 15 mars à 18h, il y aura une projection et un débat en ligne, forcément, du film du coup qui s'appelle Poumon Vert et Tapis Rouge. Donc, vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.fne04.fr. On vous le mettra sur le lien. Et le deuxième grande annonce, notre assemblée générale devrait se tenir en présentiel le 20 mars. Donc c'est un samedi. Et donc vous êtes conviés si évidemment les conditions sanitaires le permettent.
Et ça se passe où ?
Le lieu est encore à confirmer parce que conditions sanitaires, mais ça se passera bien entendu dans le 04 où l'association
réside
et agit. Si c'est bien ça, www.fne04.fr. Ça c'est pour suivre du coup nos actualités sur notre site internet, et du coup il y a aussi nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver sur Instagram et Facebook, vous abonner à votre newsletter, et on espère que du coup la projection et le film en ligne ça devrait pouvoir se tenir. Du coup, on rappelle
le titre de du film.
Le film s'appelle Poumon Vert et Tapis Rouge, et donc ce sera une projection en ligne gratuite à laquelle vous pourrez vous inscrire sur un lien que vous trouvez sur notre site ou par mail, et elle sera normalement suivie donc d'un débat.
Voilà. Léa Longo, merci beaucoup pour cette belle intervention.
Merci de votre accueil, en tout cas.
Et puis merci pour toutes ces questions qu'on peut se poser, effectivement. Merci beaucoup. Et puis, on retrouvera cette émission en ligne. Bonne journée. Au revoir.